Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 119e épisode de Torréfaction. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec notre petite sélection de l'actu, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Oui, bonjour Fastkill.
Est-ce que ça va bien cette semaine?
Écoute, super, impeccable.
Okay. Non, parce que les gens vont se lasser quand on leur dit, on leur raconte nos misères, on va faire putain les mecs
on a
quand
que
même,
des ennuis.
Oh là là, ils sont vieux, ils s'amusent pas et tout. Non, en fait ça va, hein, mais voilà, des fois il y a plein de trucs à gérer, dont ce podcast.
C'est vrai.
Qui nous occupe en fait, hein, mine de rien, ça c'est bizarre, mais les infos rentrent pas toutes seules dans
c'est
la conduite.
C'est du travail.
C'est très bizarre, je comprends pas ce concept du travail, ça devrait tout automatiser, on nous avait dit. Bon bref, on a plein de choses à se dire aujourd'hui en plus.
C'est vrai, on a une grosse actu, on a un gros sommaire et on va commencer tout de suite avec le gaming et des news du côté d'un jeu mobile qui s'appelle Shadowgun Wargames, tout un programme.
Eh oui, alors Shadowgun, on en avait parlé il y a quelques années.
J'ai déjà oublié.
Alors j'allais te dire t'es pas le seul, mais en fait ça fonctionne pas mal. La boîte qui est derrière, qui s'appelle Madfinger Games, a l'air d'avoir quand même rentré un peu de sous. Ils sont spécialisés en fait dans le free-to-play Android, iOS, un peu de qualité, mais ambiance FPS. C'est-à-dire qu'il y avait pas énormément de trucs sur le FPS pur, c'est-à-dire que tu vas trouver aujourd'hui pas mal de Battle Royale comme par hasard. Je crois que c'est un petit genre qui marche pas trop mal ces dernières années.
Il paraît, oui.
Voilà, et eux, ils se sont dit, bah du coup, il y a plus rien de vraiment un peu quali en 5v5, faire du Capture the Flag, du Team Deathmatch, etc. Ça tombe bien, Shadowgun Wargames, c'est exactement ça. Et quand vous allez télécharger et regarder le jeu, vous allez vous dire, ça me rappelle un truc quand même. Et oui, parce que ça a quand même un peu calqué sur Overwatch, en tout cas sur le design général. Après, au niveau de l'originalité du gameplay, on n'est pas sur du Overwatch, on est sur des trucs beaucoup plus classiques. Mais le but, c'était de faire rentrer du 5v5 pas moche et pas trop chiant sur votre téléphone. Donc tu vois, le challenge, il est quand même là. Et la grosse ruse, c'est que au lieu de faire un truc super classique, ils ont repiqué à Overwatch le truc intéressant, que Overwatch avait piqué avant, hein, je vous rassure. C'est-à-dire de faire des personnages bien spécifiques. C'est-à-dire chaque perso dispo dans le jeu, il y en a que 5 pour l'instant, mais j'imagine qu'ils vont en rajouter, ont des pouvoirs et des armes spécifiques. Alors les pouvoirs, c'est des classiques, et les armes aussi, c'est-à-dire que t'as tous les archétypes classiques, le mec qui a le gros gun qui va bien, le gars qui a le gros lance-roquette, mais qui du coup a pas intérêt à rater son coup, la snipeuse de service, etc. etc. Le jeu étant gratuit, vous allez pouvoir aller tester ça tout seul comme des grands. Il y a deux cartes et le truc qui moi m'a beaucoup fait rire, c'est que le contrôle d'un FPS généralement sur mobile, c'est un peu compliqué, surtout si tu rajoutes des pouvoirs. Je veux dire, au bout d'un moment t'as plus assez de doigts pour appuyer sur l'écran, donc il y a un mode de contrôle ultra easy mode qui m'a trop fait rire. C'est qu'en fait tu te balades et que dès qu'un mec est dans ton viseur, tu tires.
Ok, c'est simple. Un jeu pour moi ça.
Voilà, simple, efficace, si t'es devant, voilà, faut juste le garder dans ta mire, et puis en fait, ton perso tire tout seul, ce qui te laisse tes doigts tranquillou pour aller déclencher tes pouvoirs, etc. Ce qui est pas complètement stupide, vous pouvez essayer comme ça. Évidemment, si vous vous demandez comment on gagne de l'argent, on est sur le modèle classique, hein, c'est des skins, etc. Et ça se télécharge sur les stores habituels, vous pouvez aller voir ça tout seul.
Shadowgun Wargames, donc, on va reparler de nos amis de Blizzard, on en avait parlé la semaine dernière avec la catastrophe de la version remasterisée de Warcraft 3 Reforged, sous-titré Refunded par les fans. Donc après le tollé que ça a suscité, les gens de Blizzard se sont dit, bon, on a un petit peu déconné, donc ils ont décidé de procéder à des remboursements automatiques pour les gens qui le souhaitent. Donc voilà. Il n'y a pas de raison à donner, il n'y a pas de justificatif à sortir, on dit juste qu'on est déçu et qu'on veut être remboursé, et Blizzard rembourse dans la foulée. Alors évidemment, c'est un pis-aller, on va dire, hein, parce que ça change malheureusement rien au fait que les gens qui jouaient à l'ancienne version du jeu, la version classique, doivent toujours se fader la nouvelle interface et toujours le même système de jeu en ligne. Donc c'est pas idéal, on va dire que c'est un petit pas en avant, mais ça corrige pas tous les problèmes. Et puis toi, tu m'as dit que t'avais des infos,
infos
croustillantes. Hein.
Car nous avons notre insider depuis des années chez vous. Nous savons tout, Blizzard, tout. Ouais, non, je rigole beaucoup parce que déjà, la procédure en question a été mise en place sans prévenir les équipes qui s'occupent de ça d'habitude.
Sympa.
Donc, qui ont adoré. Mais surtout, bah, c'est hyper rigolo de mettre en place ce genre de truc. Mais comme en fait, le jeu est en préco depuis novembre 2018, imagine, novembre 2018. Ça fait un moment qu'ils ont parlé de ce putain de jeu. Bah en fait, il y a plein de gens où ça merde, parce qu'ils demandent un remboursement, mais en fait, ils ont changé de carte bancaire, ils ont changé de banque, ah t'as bah des pays où tu as des virements, bref, ils se retrouvent avec des situations ingérables. Il y a même des situations en fait, où ils rendent la thune à des services de paiement par téléphone, par exemple, et avec, ça existe dans plein de pays, bah, où les mecs se gardent la thune, puisqu'en fait, le client n'est plus là. Donc, le remboursement est fait, mais... il n'y a pas de lien, si tu veux, entre ton ID de joueur et puis ce que tu as utilisé pour le moyen de paiement. Mmh. Mais en tout cas, dans la version automatique, c'est un merdier sans nom. Donc déjà, ça, c'est très rigolo. Et puis bah surtout, j'espère que si vous avez passé une mauvaise journée, vous êtes un petit peu tendu, écoutez, allez sur Reddit, allez regarder le truc dédié à ce fantastique jeu où vous verrez tous les bugs rigolos. Moi, mon préféré, c'est tous les placeholders en fait qui ont été trouvés depuis que j'ai sorti.
Ça, ouais.
Avec les photos d'une développeuse à la place d'une icône de pouvoir. Enfin, des trucs hyper... enfin, tu dit mais c'est pas possible, donc voilà, rappelez-vous que nos amis d'Activision ont trouvé que c'était une excellente idée de virer plusieurs centaines de personnes
c'est
de chez
ce que
Blizzard.
J'allais dire, voilà. On essaie de nous rassurer en nous disant tout va bien chez Blizzard, tout va bien, ce ne sont voilà. pas ces droïdes que vous cherchez.
Bah, quand tu sors un jeu sans QA, ça se voit. C'est un peu compliqué, et puis alors si vous vous demandiez pourquoi l'interface RAM, je sais pas si on en avait parlé de ça, mais ça m'a tué, l'interface qui est faite en fait avec...
C'est du Chrome,
un, ouais, c'est un bout de Chrome, mais en fait c'est même pas le bon framework, enfin bon bref, c'est dégueulasse. Et du coup, il y a des gens qui n'ont pas Chrome installé sur leur bécane, le jeu plante et leur truc leur dit Chrome a planté. Mais j'ai pas Chrome, je comprends pas comment c'est possible. Au secours. Donc voilà, donc, je trouve ça magnifique. Bravo Blizzard, belle démonstration et maintenant bah, vous vous remettez au boulot. Merci beaucoup.
Allez, on passe à la suite avec des news de Apex Legends et la saison 4.
Voilà, donc ouais, des gens qui travaillent. Respawn, merci. Des gens qui font leur travail correctement, c'est beau. Donc la saison 4 est arrivée. Donc Apex Legends, on en parle depuis la sortie. C'est le même système que tous les games as a service, comme on dit, donc qui existe actuellement dans le monde du Battle Royale. Il faut rafraîchir un petit peu la sauce de temps en temps pour que les gens continuent à jouer, donc tu rajoutes des armes, tu rajoutes des personnages, tu modifies la carte. Ça tombe bien, c'est exactement le programme de nos amis de chez Respawn pour cette saison 4. La carte, elle a pas beaucoup changé, il y a quelques modifications mais c'est toujours la même, donc bah, on regrette toujours l'ancienne, hein, les puristes et j'en fais pas partie, mais je comprends qu'on puisse préférer la première carte qui était disponible sur le jeu, qui ressort de temps en temps sur des événements spéciaux, mais je désespère pas de la voir revenir de manière plus permanente, on va dire. En tout cas, la nouvelle avec ces modifications, elle est pas trop mal, on commence à avoir des open space sympas pour sniper, il y a des bâtiments partout, c'est ce qui fait chier plein de gens, mais ça correspond aux personnages qui sont disponibles, donc il y a des persos qui sont plus forts indoor que dehors, donc ça tombe bien. Et il y a le nouveau perso qui est fantastique, qui s'appelle Revenant, qui est un robot tueur à gages. Mais à qui on n'a pas dit que c'était un robot. Donc en fait, t'as une cinématique qui te présente le nouveau robot et le scénario est hyper intéressant. Je ne déconne même pas. Je viens de dire qu'un scénario de jeu vidéo d'un Battle Royale peut être intéressant. Je sais, vous êtes surpris.
Tout arrive. Ouais.
Voilà. Il y a la mise en avant d'une boîte qui s'appelle Amon's Robotics, qui a l'air un petit peu, comment dirais-je, pas tout à fait clair. Et en plus, comme ce personnage avait leaké, les mecs avaient fait une autre vidéo en expliquant qu'il y avait un nouveau perso, et ce nouveau perso, en fait, c'était du flan, et il y avait une vidéo qui était sortie où il se faisait buter par le vrai nouveau perso.
D'accord.
Et ça, c'est là, tu vois, il y avait le twist dans le twist. L'équipe de com de chez Respawn s'est fait très plaisir. Le truc intéressant avec le nouveau personnage, outre son background, c'est qu'il a des pouvoirs rigolos. En fait, il peut mettre une espèce de totem. C'est son ulti. Si tu touches ou tes potes touchent totem, pendant un petit laps de temps, j'ai plus le timing exact en tête, bah tu deviens une sorte de revenant, justement, d'où le nom du personnage. Et en fait, tu peux rusher tes ennemis et tu meurs et tu reviens au totem, en fait.
D'accord.
Si tu te fais buter.
Okay.
Pour pas que ça soit complètement OP, quand tu reviens au totem, il te reste un point de vie, mais t'as tout ton bouclier. Donc, sachant que le bouclier, ça fond quand même assez rapidement quand on se fait tirer dessus, il faut bien placer le totem pour pas se faire choper, sinon ça va pas bien se passer. Et son pouvoir... normal, c'est un espèce de bombe, une zone qui te balance et qui va bloquer les pouvoirs des adversaires qui vont passer dedans, ce qui peut faire complètement tourner un fight, et c'est assez marrant à jouer. En plus, le design est vraiment sympa, ils se sont fait plaisir, et les skins qui sont dispo dans cette nouvelle saison sont les moins moches depuis la sortie du jeu, je tiens à le préciser. En tout cas, voilà, c'est mon avis et je le partage. ils ont changé plein d'autres trucs, mais vous irez lire la patch note que j'ai linkée. Ils ont changé plein de gestion, par exemple les munitions. Maintenant, t'as des munitions spécifiques pour les snipes. Et d'ailleurs, ils ont rajouté un nouveau fusil de précision qui s'appelle le Sentinel, qui est doté d'un mécanisme qui te permet en fait de choisir entre les tirs lents et des tirs chargés. Mais pour pouvoir les tirs chargés, il faut avoir des canisters en fait, enfin les bonbonnes qui servent à recharger ton shield d'habitude, ton bouclier. Donc si t'en as pas, bah tu peux pas utiliser ce mode de l'arme. Mais c'est assez puissant et franchement, on s'est bien marré avec ces armes avec la Team Geek Zone. On rigole beaucoup avec ce truc. Donc voilà, une update qui va nous obliger à reponcer le jeu pendant quelques heures. Comme quoi, tu vois, le game as a service, ça marche quand c'est bien fait.
Allez, c'était la grosse news gaming de cette semaine. Enfin, je pense que c'est, oui, on peut dire ça, hein. C'est l'arrivée de GeForce Now.
Ah, Nvidia, qui bosse sur GeForce Now depuis des années. Avant, ça s'appelait Grid. Ça fait, c'est une techno, en fait, de serveur qui y a derrière, qui un truc qui est pour eux hyper important. Mmh. Et cette offre de jeu à la Netflix, eh ben, on l'attendait. On l'a enfin. Eux derrière, ça veut dire que l'infrastructure doit être au niveau et j'imagine que ça doit être un sacré merdier à gérer. Mais on peut pas dire que le timing soit. Enfin, tu vois, c'est. Tu te dis.
C'est étrange en fait. Oui.
C'est étrange. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'était prévu comme ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, bah ça vient rouler sur l'autoroute de Google Stadia, qui d'ailleurs n'était pas fini de construire du tout. Les mecs de Google doivent grave tirer la gueule parce que GeForce Now, en fait, ça propose ce qu'on attendait en fait de Google Stadia, c'est-à-dire que ça va vous donner l'accès à votre bibliothèque de jeux que vous avez déjà, donc que vous n'avez pas besoin de racheter, sur divers devices. Ça marche sur device mobile, ça marche pas sur console encore, et vous allez comprendre pourquoi. Il y a une petite problème de business qui se cache derrière ça. Le fonctionnement est relativement simple. Vous téléchargez un client, vous abonnez ou vous vous abonnez pas, parce que il y a un tiers gratuit, c'est la très bonne nouvelle, et il y a un tiers payant. Il suffit de se connecter sur le site de Nvidia, vous vous faites un compte, vous téléchargez le client sur votre machine, vous avez un PC asthmatique, mais vous aviez acheté des jeux Steam ou whatever sur un store il y a longtemps, vous voulez y rejouer, ou vous avez acheté un jeu qui ne tourne pas sur votre PC actuellement, et ben vous pouvez installer ça et y jouer directement depuis les serveurs de monsieur Nvidia, où ça va tourner de manière très correcte. Alors ils ont fait un pari très intéressant, c'est de partir sur du 1080p et pas du 4K. Sûr que le 4K en streaming, c'est une hérésie.
C'est un peu ambitieux, on va dire.
Voilà, c'est-à-dire qu'en termes de bande passante, en termes d'affichage avec la compression, etc., c'est une connerie, ça n'a pas de sens. Donc eux, ils se sont dit, on va déjà commencer par faire du 60 images par seconde avec du 1080p classique. Et si on arrive à faire ça correctement, ça sera déjà pas mal. Et le résultat est super bon. Donc là, on parle, ça fait déjà 2 jours que le produit est disponible. Vous, ça fera 3 quand vous écouterez ce podcast, si vous l'écoutez à l'heure. Les réactions du côté de nos petits gars de chez Geekzone sur le forum, elles sont quand même assez unanimes. Tout le monde est assez bluffé par le résultat. Et puis, il y a de quoi. Et le truc qui bluffe, c'est évidemment donc l'offre dont je parlais il y a 2 secondes. Il y a un mode gratuit, donc vous pouvez tester sans dépenser 1€ pour voir si ça marche chez vous, si vous avez la bande passante, etc. Il y a une restriction, c'est que vous ne pouvez jouer que 1 heure à la fois, mais t'as pas de restriction sur le nombre de fois tu peux faire ça sur une journée.
D'accord.
Donc tu peux jouer 24 heures de suite si t'as pas envie de dormir. Le seul problème, c'est que du coup t'es pas prioritaire pour avoir une place sur les serveurs, et si tout est plein, tu attends qu'une place se libère pour pouvoir jouer. Donc ça peut être un problème si t'es sur certains horaires, j'imagine. En revanche, on peut payer pour un pack fondateur qui coûte 5,49€ par mois. Ça va, c'est beaucoup moins cher que Google Stadia. Et là, c'est des sessions 6 heures étaient prioritaires, donc tu vas pouvoir te connecter normalement directement sur les serveurs, ça devrait passer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, sur les jeux qui sont compatibles RTX, donc la fameuse option ray tracing des dernières cartes Nvidia, c'est inclus dans cette offre-là uniquement. Tu peux pas l'avoir dans les modes gratuits. C'est-à-dire qu'en gros, les serveurs sur lesquels tu vas te connecter en mode fondateur sont un peu plus costauds que les autres. Donc la bonne nouvelle de tout ça, c'est qu'en plus, quand tu t'offres ce petit abonnement, tu te prends 3 mois gratuits, histoire de bien pouvoir tester ça tranquillement. Donc là, c'est, tu vois, un autre clou dans le cercueil de Stadia pour être bien sûr que tu viennes tester. Et puis, face au catalogue famélique de nos amis de Stadia, eux, ils ont pris, donc on a accès aux jeux qu'on a achetés, mais en fait, pour l'instant, tout n'est pas encore disponible. Mais il y a quand même 1000 jeux dans le catalogue et il y a 30 free to play. Évidemment, vous retrouvez les Fortnite et compagnie qui sont dedans. Ils n'allaient pas les oublier, ceux-là. Le résultat est plutôt intéressant. Il y a un problème récurrent qui peut être un petit peu chiant. C'est comme cette plateforme doit gérer toutes les autres plateformes, l'expérience utilisateur peut être un petit peu dégueulasse. C'est-à-dire que quand tu veux te connecter, par exemple, sur ta Nvidia Shield et que du coup, tu dois t'authentifier sur Steam via la Shield, sans clavier, etc., ça peut être vite chiant. Donc, mon conseil, c'est déjà d'installer directement sur votre smartphone la télécommande Shield qui permet d'avoir un clavier intégré. Donc, ça va vous faciliter la vie. Et normalement, ça sera pas mal. Il y a aussi des petites conneries, genre sur Mac, par exemple, les claviers, le mapping est un peu débile. Donc, tu vas pas trouver facilement l'arrobase de ton clavier Windows sur ton clavier Mac. Bon, voilà, ça, c'est des choses qui vont être à corriger. Mais encore une fois, c'est un lancement qui est, j'ai envie de dire, pas anticipé, parce qu'on l'attendait depuis un moment, c'était en bêta depuis un moment. Moi, j'avais déjà testé le service. Mais le fait qu'il l'ouvre à tout le monde en ce moment... Bon, j'ai envie de dire, la guerre du cloud est lancée, et puis comme il y a Microsoft qui va débarquer avec le xCloud dans pas longtemps, je ne suis pas tellement surpris. Si vous voulez un résumé de ces infos, je vous link le billet que j'ai fait sur Geekzone cette semaine dans le petit mot qui accompagne ce podcast.
Ouais, moi ça me fait penser à ce dessin animé, tu sais, Roadrunner, où t'as voilà, c'est ça. Ils sont passés à côté de Google, ils ont fait bip bip, ils ont tracé, maintenant ça y est, vas-y, rattrape-nous.
Et tu voyais pas bien, c'était flou, mais je crois que la main, il y avait un seul doigt de lever.
C'est ça. Allez, on continue dans le gaming, on n'a pas fini avec Scorchbringer.
Alors ça, c'est j'y ai pas joué. Voilà, j'annonce, je viens de lever les mains en l'air en signe de, j'avoue tout, monsieur le
perché.
Perché, j'y ai pas joué, mais j'ai très envie d'y jouer. Scorchbringer, c'est un classique, hein, c'est un roguelike platformer, ambiance gros pixel, c'est-à-dire que comme ça, à vue de nez, sans y avoir joué, moi personnellement, ça me fait penser au mariage un peu bizarre entre Celeste et Dead Cells.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est c'est très rapide, très fluide, et ça cartonne partout, mais avec une ambiance un petit peu mignonne qui n'aurait pas dénaturé dans un Céleste. Et du coup, tu vas aider un personnage qui s'appelle Kira à aller à sauver l'humanité, évidemment, ou c'est la rédemption de l'humanité, pardon. Excusez-moi, j'ai pas suivi le scénario, mais je vous ai linké la page du jeu. Ça vient de sortir, mais là, vraiment, c'est tout neuf, et puis ça ne coûte pas très cher. Donc, j'ai envie de dire, si vous avez envie d'aider des petits développeurs français qui font du bon jeu en gros pixels, c'est le moment de vous faire plaisir. Normalement, si j'en crois ma liste Steam, ça devrait pas être trop mal, puisque pour 14€, là, il est sorti, il y a moins 10% en ce moment. Donc, évidemment, vu la somme, ça ne fait pas une grosse réduction. Mais là, je vois le nombre de mes potes qui l'ont mis dans leur wishlist. Je pense que ça devrait pas être trop mal. Donc, voilà, je vous laisse découvrir tout ça et venir donner votre avis sur le forum. Ça me fera plaisir, parce que je ne suis pas sûr d'avoir le temps d'y jouer d'ici la semaine prochaine.
Et on termine avec Darksburg.
Pareil, on reste dans le Frenchie. C'est ma semaine. J'en fais deux pour le prix d'un. Darksburg, ça va être en accès anticipé le 12 février. Ça nous vient de chez Shiro Games. Alors, Shiro Games, on les présente plus. Hein. C'est Evolons 1 et 2, Northgard. Et d'ailleurs, pour Northgard, ils viennent de sortir un nouveau clan viking. Hein. Northgard, c'est un jeu de stratégie que j'avais adoré. Et le truc s'appelle le clan du bœuf. 4,50€ pour découvrir une race qui a l'air de mettre des grosses tatanes, mais qui démarre lentement. Je cite le communiqué de presse. Ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai vu ça. Ça sent le truc un peu compliqué, mais Darksburg, pour reparler de lui, c'est un truc classique, mais pas classique. On est dans du hack and slash coopératif avec 4 héros. C'est un truc qui est pas très nouveau, j'ai envie de vous dire, mais c'est fait par des gens qui commencent à avoir une bonne réputation, donc j'ai envie de tester et de voir ce que ça donne. Tu vas buter du monstre zombifié à la pelle, et puis t'as plusieurs modes de jeu qui sont prévus. Donc t'as un mode survie, il va falloir se bastonner le plus longtemps possible. Et à un moment, tu vas crever, mais il faudra donc durer le plus longtemps possible. Moi, le mode qui m'intéresse le plus, c'est un mode qui s'appelle, c'est un mode d'opposition, où t'as une équipe de 4 qui va pouvoir jouer les héros classiques, et une équipe de 4 qui va jouer des zombies, en fait, ou en tout cas des bestioles un peu zombifiées, avec des pouvoirs, pour l'instant, qui sont pas tellement expliqués, et, il va falloir gagner contre l'autre équipe. Alors, il y a une bande annonce qui est sortie, c'est de l'early access. Donc on a le temps de voir évoluer le jeu. Si c'est comme un pro, enfin s'ils font ça comme Dead Cells, le truc que je viens de vous raconter aura peut-être plus aucun sens l'année prochaine. Mais vous aurez suivi le début du jeu. Et en tout cas, vu ce qu'ils ont déjà fait avant et vu Northgard, j'ai envie d'y croire. Et je pense que ça devrait pas être mal du tout. Et ça sera donc dispo tout bientôt, c'est-à-dire mercredi prochain. C'est pour ça que j'en parle cette semaine, car le sommaire de la semaine prochaine risque d'être chargé aussi.
Allez, on passe du côté des apps avec une app pour prendre soin de son Mac.
Ça va aller très vite. J'en ai parlé cette semaine sur Geekzone, ça s'appelle Sensei. Sensei, c'est l'œuvre d'un seul codeur suédois qui s'appelle Oscar Groth. Tu vois, j'aime bien, c'est imprononçable pour nous, je suis sûr qu'il y a un truc un peu guttural qui se cache là-dedans, mais je l'ai pas. Et qui s'inspire d'un côté de ce que fait un produit hyper connu qui s'appelle Clean My Mac, d'un autre produit qui, lui, nous donne un tableau de bord pour suivre tout ce qui se passe sur son Mac, que ça soit les accès disques, la mémoire, les entrées-sorties côté réseau, etc. Et qui s'appelle Istat, qui est un des piliers du genre, qui est vraiment, en tout cas, le plus joli et le plus complet. Et lui, il a décidé de mettre tout ça dans une seule interface, avec en plus tous les classiques. Donc Clean My Mac, un des trucs les plus pratiques, c'est de nettoyer votre disque dur de toutes les saloperies qui peuvent s'accumuler dans un ordinateur en général, y compris sur macOS, c'est-à-dire vos fichiers de log, désinstaller proprement une application. Si vous avez pris comme habitude de virer une application de votre fichier application en vous disant « Voilà, c'est fini, j'ai désinstallé mon truc. »
Ça y est, c'est propre.
Voilà, c'est propre. Sur Mac, ça marche pas du tout comme ça. Vous avez plein de fichiers qui se baladent dans un dossier support, par exemple, entre autres, et puis selon les applications, ça peut être encore plus ou moins propre. Et donc, ces trucs-là vont faire le ménage. Et lui, il a fait ça, c'est joli. Mais le problème, c'est que c'est encore un peu jeune, j'ai envie de dire, avec quelques bugs que moi, j'ai repérés pendant que je testais. Genre l'interface qui s'affichait pas au premier démarrage, genre des
capteurs.
Des capteurs, merci beaucoup. Des capteurs qui faisaient pas leur boulot. C'est un petit peu encore jeune, dans le sens où déjà on a eu 4 mises à jour en 15 jours. Donc le mec bosse sur son projet, hein, ça on peut pas lui enlever. Et il a intérêt, puisqu'il veut le vendre $29 l'année en abonnement, ou $59 quand on achète une licence à vie. Alors je trouve que c'est un petit peu ambitieux vu le marché et vu l'offre déjà existante. Surtout que lui, il a fait un beau tableau en expliquant « je fais beaucoup plus de trucs que tous ces gens-là », etc. Ouais, enfin bon, il y a plein de trucs où effectivement il n'y a pas de case chez les concurrents, mais on s'en fout un petit peu. Ouais. Donc, c'est un petit peu, comment dirais-je, tu es gentil, mais calme-toi quand même, mon petit Oscar. Le produit, en tout cas, est joli, c'est bien designé. Le truc, pourquoi j'en parle, c'est que je pense qu'à terme, ça sera un excellent tool. J'ai juste un petit souci avec ça, c'est que vraiment, il est tout seul sur l'opération. Et quand on a un dev vraiment seul sur ce genre de soft qui demande quand même pas mal d'argent, s'il arrive quoi que ce soit à cette personne, je ne lui souhaite rien de grave, on est un petit peu embêté avec sa licence à vie qui ne sert plus à rien. Je vous en parle puisque moi, j'ai eu ça avec Flash FXP et le développeur est en prison. Voilà, oui, donc c'est pareil. Moins pratique.
Enfin, je ne suis pas en prison, mais j'ai eu le problème avec Flash FXP aussi.
Ouais, sois clair dans tes phrases.
C'est ça,
c'est compliqué.
Je me suis rendu compte au moment où je l'ai dit. Il y a mal de
là. D'ailleurs, et j'en profite pour avoir une petite pensée chez tous les administrateurs système qui s'étaient dit que Razer FS, c'était un très bon système de fichiers sous Linux et qu'ils ont imposé ça dans leur boîte. Et puis après, le mec qui faisait ça, il était tout seul aussi. Puis il a tué sa femme. Voilà. Ah. Donc ça, c'est pas très bien passé aussi pour Razer FS. Donc voilà, les softs comme ça, c'est bien. Les utilitaires, il y en a plein. On en conseille plein toute l'année. Mais quand on demande beaucoup d'argent comme ça sur un produit, d'un coup, je me rappelle que le mec est tout seul et ça me calme un petit peu.
Et moi, je vais vous parler des mésaventures de Microsoft.
Ouais,
après avoir oublié de renouveler un nom de domaine, ce qui leur a posé plein de soucis avec leur suite Office. Et ben, cette semaine, en fait, il y a un grand nombre d'utilisateurs de Windows qui ont tout à coup plus du tout pu utiliser le menu démarrer. En gros, quand tu lances le menu démarrer dans Windows et que tu tapes, par exemple, les premières lettres d'une application, normalement, ça te sort les trucs qui correspondent à ton application, les documents, etc. C'est une recherche, en fait, qui est intégrée dans Windows. Et ben, elle marchait plus. T'avais un beau pavé noir. Donc, c'était un petit peu embêtant. Donc, Donc forcément, premier réflexe dans ces cas-là, on commence à aller googler le problème, puis on se rend compte que c'est un problème récurrent dans les mises à jour de Windows. Donc il y a plein de solutions qui sont proposées à chaque fois, réparer les fichiers système, désactiver des trucs, machin, etc. Sauf que rien ne fonctionnait. Donc au bout d'un moment, bah, on s'est dit que le problème, il venait peut-être pas de nous, il venait peut-être de chez Microsoft. Et effectivement, donc a priori, il y aurait eu un souci en fait avec un fournisseur d'accès fibre en fait dont dépend Microsoft, un fournisseur tiers, qui aurait apparemment eu des problèmes d'infrastructure, et donc bah, ça a tout fait planter. A priori, ça a été résolu depuis, mais ça nous a permis, enfin moi en tout cas, de découvrir une petite manip, une petite modification qu'on peut faire dans la base de registre pour enfin supprimer de manière définitive et permanente les résultats Bing quand on fait une recherche, parce que ouais, c'est vraiment un truc super chiant.
De merde.
Voilà, quand tu fais une recherche, tu veux chercher un document, tu veux lancer une application, bah il va te proposer aussi ce qu'il trouve sur Bing, et honnêtement, on s'en fout un petit peu. Donc on vous a linké tout ça dans le forum de Geekzone, parce que bah évidemment tout le monde s'est un peu alerté au moment où c'est parti en sucette. Donc on a donné quelques pistes, et notamment donc cette petite manip très simple à faire dans la base de registre pour supprimer les recommandations Bing. Et puis on en a profité aussi pour nous recommander un soft dont j'ai parlé cette semaine sur Geekzone qui s'appelle Everything, qui est un moteur de recherche alternatif en fait, qui permet de rechercher bah, tout comme son nom l'indique, Everything, et qui est plutôt pas mal. Alors c'est un outil qui est gratuit, qui est très léger, qui peut aussi fonctionner en mode portable, c'est-à-dire que t'es pas obligé de l'installer sur ta machine, et qui nice, permet donc de faire des recherches avant dans Windows. Alors personnellement, je l'utilise pas, enfin j'utiliserai probablement pas au quotidien, parce que je trouve que ce que fait la recherche Windows quand ça fonctionne plutôt bien, et puis elle s'est bien développée ces dernières années. Il y a moyen aussi maintenant de faire des recherches très complexes, mais là on pousse encore le bouchon un petit peu plus loin avec des recherches via des regex, enfin tu vois, des expressions régulières, etc. Donc pour vraiment les gens qui savent pas où ils rangent leurs affaires en fait, et qui veulent les retrouver. Donc c'est assez pratique, c'est un petit soft voilà qui se télécharge en version 32 bits ou 64 bits. Je vous linkerai donc le papier que j'ai fait sur le sujet dans le billet qui accompagne ce podcast, et on va passer côté culture, et cette fois-ci c'est toi qui t'y colle.
Ben ça c'est rare. Je tiens à le dire. Oui, parce que nous allons parler de deux choses qui sont sorties chez Netflix, qui nous viennent du studio de création complètement barré qui est Bobby Pills, qui sont les gens derrière Pipodou, par exemple, hein, on le rappelle, avec l'éducation sexuelle un petit peu différente. J'espère que vous avez backé sur Kickstarter, sinon je ne vous parle plus. Et qui ont sorti deux trucs complètement barrés. Alors, il y en a un, j'en parle, mais sans en parler, c'est-à-dire que je vais vous dire d'aller le voir, et après je vais me barrer discrètement, et je vais vous débrouillez-vous avec ce que vous allez regarder. Ça s'appelle Crisis Jung. Alors, c'est absolument pas pour les enfants, qu'on soit très clair. C'est presque pas pour les jeunes adultes, j'ai envie de te dire. C'est complètement taré. C'est 10 épisodes de 6 à 8 minutes, donc disponibles sur Netflix, qui sont complètement craqués. Et j'ai envie de vous dire que moi, je sais pourquoi, en fait. Hein, parce que quand tu regardes qui est derrière tout ça, j'ai un nom qui me saute vraiment au visage, qui est Laurent Sarfati.
D'accord. En fait, c'est Monsieur Patate.
Monsieur Pomme de Terre de chez Joystick, qui est en fait avec ses amis Jérémy Oaro, Jérémy Perrin, Baptiste Gobert, qui sont des gens en fait qui étaient déjà derrière Last Man. Alors je sais pas s'ils étaient tous sur Last Man, parce que j'ai pas fait mon travail de journaliste, mais moi voilà, il y a un truc où il y a Laurent, je me dis il faut que je regarde. Et bon, bah, il va toujours parfaitement bien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Si vous avez rigolé en regardant, en lisant ou en regardant ce qu'il fait depuis des années maintenant en tant que scénariste, bah voilà, ça risque de vous plaire. C'est pas pour tout le monde. Hein. Ça ne plaira pas à tout le monde du tout. C'est du Ken le survivant qui explique un peu la vie, tu vois. Mais en fait, ce que je viens de dire ne veut rien dire car la série est complètement barrée et même la narration, vous allez voir, ça, c'est pas possible, en fait. C'est-à-dire qu'au début, tu comprends pas ce qui se passe. Vraiment. C'est-à-dire que le premier épisode, regardez-le. J'en dis pas plus, parce qu'après, c'est impossible de pas spoiler. Mais bon, le méchant s'appelle Petit Jésus. Le héros se transforme en criant « J'en appelle à la violence ». Et là, il y a des seins qui poussent, les ongles qui poussent. Il mange ses amis pour acquérir des nouveaux pouvoirs. Mais ça a un sens.
OK.
Voilà, j'ai envie de dire que si vous ne comprenez pas, prenez plus de drogue, et puis voilà, c'est de votre faute. C'est tout ce que j'ai à dire.
Une chose est sûre, c'est que Monsieur Pomme de Terre a toujours un bon deal.
Ça, et puis ouais, mais avec des molécules complexes et tout. Non, franchement, je suis admiratif. Alors évidemment, allez voir les reviews une fois que vous allez regarder, si, ou que vous aimiez ou pas, hein, parce que vous allez voir, c'est clivant, comme on dit, même au niveau de la réalisation. Mais moi, je suis resté un peu, tu vois, la bouche entrouverte.
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Voilà, ça dure. Bah, finalement, quand t'enchaînes tout, ça dure pas si longtemps. Et voilà, à la fin, mais je suis pas sûr qu'il faille d'ailleurs tout enchaîner, hein, parce que tu t'en ressors pas complètement indemne. Mais rien que le premier épisode, regardez, parce que le premier épisode, ça marche tellement sur tous les codes que c'est rigolo, tellement c'est n'importe quoi. Voilà, Crisis Jung, n'oubliez pas ce truc.
Et puis tu voulais parler d'une autre série?
Oui, alors que j'avais déjà vu, qui vient d'arriver sur Netflix, mais qui, pour le coup, avait été disponible sur le service de Bobby Peel et dont j'avais déjà parlé sur le forum de Geekzone, je pense, qui s'appelle Vermine. Alors, Vermine, c'est beaucoup plus safe à regarder, on va dire que ça fait plus de sens, mais c'est complètement pas pour les enfants pareil, attention, hein. En gros, je te fais le synopsis en lisant Wikipédia parce que j'ai la flemme et je suis fatigué. C'est Mantos, c'est une naïve mante religieuse qui quitte sa ville natale pour réaliser son rêve et rejoindre les forces de police de la grande ville. Comprendre la grande décharge, en fait. Hein. Ses idéaux seront fortement malmenés par la dureté de la vie en métropole et notamment par l'hostilité de sa partenaire, la très instable Shemu.
Ok.
Alors, la très instable Shemu, en fait, c'est 90% de l'intérêt de la série. Je vais très loin quand je dis ça, mais en gros, elle est doublée. Faut regarder évidemment en VF, hein, c'est des productions françaises prévues entre guillemets pour la VF à la base. Mm-hmm. Et elle est doublée par une rappeuse qui s'appelle Kazé, qui fait un boulot mais incroyable. C'est juste les dialogues évidemment sont ultra bien écrits. Alors je sais pas si elle a un pro en plus des trucs. Bah non, c'est du dessin animé, donc t'impro pas trop généralement. Mais c'est vraiment bah c'est hyper drôle. Le personnage est complètement fracassé, on t'explique pourquoi, il y a un vrai scénario. Alors attention, c'est beaucoup plus simple à suivre, tu vois, c'est pas Crazy Junk, hein. C'est un scénar un peu simple. J'ai envie de dire, le héros est une mante religieuse, voilà. Donc, il y aurait peut-être un truc qui est lié à ça. Je ne veux pas spoiler, mais bon, voilà. C'est pas ça qui fait l'intérêt. Enfin, je veux dire, le scénar lui-même est plutôt simple à piger, mais la galerie de personnages, elle est énorme. T'as le patron du commissariat qui se fait de la thune sur le côté en faisant des vidéos sur YouTube et qui se fait passer pour un élève de collège. Complètement barré. Non, il faut regarder. Pas ça, même toi, je pense, si tu te connais pas, regarde-le, mets-le en VF. Je pense que tu vas être surpris et ça pourrait même t'arracher un sourire.
Bah écoute, j'ai justement enchaîné en annonçant une mauvaise nouvelle pour mes compatriotes qui sont en Belgique, parce que j'ai bien évidemment fait mon travail et j'ai été vérifié. Ça n'est pas disponible pour le moment sur Netflix Belgique, qu'il s'agisse donc de Crisis Jung, ou je sais pas comment on dit,
ouais,
et Vermine, malheureusement, elles sont pas disponibles sur Netflix Belgique, donc peut-être qu'il y a encore des contrats de distribution qui doivent être négociés à ce niveau-là. Mais donc voilà, si vous êtes en Belgique, pour le moment, malheureusement, vous ne pourrez pas aller vous exploser le cerveau avec ces séries, mais j'imagine que ça ne saurait tarder, surtout si c'est disponible sur Netflix France, il y a pas de raison que ça ne vienne pas chez nous aussi.
Alors surtout que Bobby Peels, il était dispo sur leur propre truc à la base, donc je sais pas si chez vous c'est encore le cas. Ils avaient leur service en fait, hein, mais
écoute,
j'ai l'impression qu'ils l'ont peut-être fermé. Mais en tout cas, ouais, essayez de demander à Jean-Pierre VHS, du coup, hein, son cousin français,
c'est ça,
de vous envoyer ce qu'il faut, parce que voilà, et vous laissez pas arrêter par le look du le dessin, et enfin tu vois, c'est pas du DA Jap avec des trucs super chiadés et tout, mais ça fait le taf et t'oublies en fait tellement c'est n'importe quoi, t'oublies très rapidement. En tout cas, moi, Vermine, j'ai beaucoup aimé, je me suis bien marré. Donc, si vous êtes un peu ouvert d'esprit à ce genre de truc, ne ratez pas ça, c'est rigolo.
Allez, si on va terminer avec un rant de Jean-Pierre Caff.
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Et on va rester dans les animes, et on va rester sur Netflix pour
ben ouais, parce qu'on vient d'en dire du bien deux fois de suite.
Voilà, maintenant un petit taquet sur passant.
Ouais, mais en plus, tu vois, c'est un taquet mais qui est pénible, parce qu'ils donnent de l'argent à des gens pour faire des produits. Tu te dis, bah ça part d'un bon sentiment. Merci Netflix. Non, ma question, c'est j'ai vu la bande annonce de Ghost in the Shell SAC 2045. Donc pourquoi faire un Ghost in the Shell en 3D version PS2? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que Netflix actuellement est dans une espèce de mode de production de remake, de nouvelles séries, de trucs connus. Tu vois, ils ont fait ça avec les Chevaliers du Zodiac aussi.
Ben on en parlait la semaine dernière. Ils font ça aussi avec leur série live action en fait, hein, puisqu'il y a Altered Carbon qui va avoir une déclinaison en animé. On va avoir The Witcher aussi qui va être déclinée en animé.
Tu vois,
mais
parce que
peut-être que ça sera bien.
Ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec Dracula. Ils ont fait une série basée en fait. J'ai dit Dracula, mais en fait sur les jeux de Dracula dont tu vas
Castlevania.
Castlevania, merci de me sauver la vie. C'est compliqué. Les gens se rendent pas compte que faire ça en fin de journée, c'était pas une bonne idée. Mais non, mais là, la problématique, tu vois, c'est quand ils font ce genre de trucs, c'est très bien, mais la problématique, c'est quand ils font des trucs en 3D dégueulasse, mais vraiment, quand je dis dégueulasse, je pèse mes mots, tu te dis, mais même si le scénario est bien, j'ai pas envie de regarder ça, quoi. Et puis alors, si c'est pour nous faire un truc comme les Chevaliers du Zodiac, ou en plus le scénario, enfin, je veux dire, le scénario des Chevaliers du Zodiac, à la base, ça a jamais été extraordinaire, hein, attention. Mais arriver à faire moins bien, avec, enfin, je veux dire, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, avec les gens qui savent écrire, tout ça, qu'on peut trouver grâce à Internet, cet outil formidable, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Pourquoi vous faites ça, les gars? Donc voilà, donc je suis hyper inquiet, et je suis d'autant plus inquiet que Ghost in the Shell, c'est un peu un de mes trucs préférés de la vie, et que je sais pas, enfin, tu vois, Masamune Shirow doit être embusqué dans un coin avec un flingue pour essayer de choper des gens, là, parce qu'il doit un petit peu l'avoir mauvaise, sauf si évidemment, il y a des gens qui sont venus avec un petit coffre en bambou avec un chèque énorme à l'intérieur pour lui dire.
Probablement le cas, ouais.
Voilà, laisse-nous tranquille, s'il te plaît.
Ne regarde pas,
c'est pas grave, tout ça va bien se passer. Donc voilà, c'est con parce que dépenser de l'argent pour faire des produits comme ça, je comprends pas, quoi. Faites différemment, si c'est une question de budget, j'en sais rien, mais là, franchement, voilà, je viendrai personnellement m'excuser dans ce même podcast si la série tient la route, mais de ce que j'ai vu de la bande-annonce que je vous ai évidemment linkée dans le billet du podcast, ne me laisse que peu d'espoir. Pour être gentil. Donc voilà, je suis très triste et très énervé, et j'aimerais que ça s'arrête. Merci beaucoup.
Et c'est la fin de ce 119e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine, 8h, pour une nouvelle sélection d'actu. On va essayer de se poser un peu ce week-end. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, je vais souffler un petit peu.
Moi, je vais regarder Picard, comme tous les vendredis maintenant.
C'est vrai, j'ai toujours pas commencé. Faut que je fasse
ça. Voilà, nous en avions parlé dans un podcast. Regardez Picard, la nouvelle série Star Trek, c'est vachement bien. Et voilà, mais ça va pas occuper tout mon week-end. Le reste, ça sera moins intéressant. Mais non, franchement, c'est une bonne surprise. Et pour le coup, maintenant qu'on peut en parler, vu qu'on a vu deux épisodes, enfin, en tout cas que je peux en parler, je vous conseille de le regarder. Et même si vous n'aimez pas la SF, mais que vous aimez bien le visual design et tout ça, le générique est à regarder. Il faut qu'on le conseille à notre ami Noki, qui ne devrait pas être insensible au travail qui a été fait là-dessus.
Et on vous rappelle au passage l'existence du Patreon, patreon.com/geekzonefr, si vous voulez nous soutenir à produire des podcasts et puis à alimenter le site en news et en dossiers divers. Ben c'est par là qu'il faut passer. Vous êtes déjà nombreux et ça nous fait bien plaisir. On va essayer de valoriser un petit peu tout ça à l'avenir en proposant du contenu pour les abonnés. On y travaille, hein. Je sais qu'on le dit régulièrement et puis finalement il se passe pas grand chose, mais on essaye de trouver des choses vraiment intéressantes à vous proposer de ce côté-là. Donc voilà, si vous avez des idées ou des suggestions d'ailleurs, n'hésitez pas. Et puis sinon, venez nous retrouver sur le site, sur le Discord pour venir jouer avec nous. Ça nous fait toujours plaisir. À la semaine prochaine. Ciao.
Ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.